Voilà, donc je ne sais pas si Frédéric vous a expliqué un peu. On fait un survol de toute la Bible, et là on arrive au livre des Actes ce soir. Et au total, on aura passé 24 sessions. Les sessions sont disponibles en ligne pour écouter, et donc c'est un espèce de survol de la Bible. Et ce soir, donc, on est dans le livre des Actes. Et le livre des Actes, en fait, c'est la naissance de l'Église. La naissance de l'Église. Vous connaissez un peu? Oui? D'accord. Et d'abord, on va prier. Seigneur, merci de nous réunir ce soir, et on te demande de nous aider à comprendre un peu comment s'est passée la naissance de l'Église avec les premiers apôtres, les premiers disciples. Et merci Seigneur, parce que ce livre des Actes, il se continue avec l'histoire de l'Église. Il n'est pas fini vraiment. C'est l'œuvre de ton esprit qui permet de répandre le salut parmi les hommes. Je te remercie pour la présence de frères et sœurs de partie du monde, les États-Unis, le Brésil, la France, la Martinique, Seigneur, et l'Allemagne. On te demande de continuer ton œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, et à travers nous, Seigneur, dans le monde entier. Amen. Voilà, donc le contexte de ce livre, il fait suite aux quatre évangiles. Les évangiles qui nous ont décrit la vie de Jésus sur terre jusqu'à sa mort sur la croix et sa résurrection. On a vu la semaine dernière un peu la dernière semaine de la vie de Jésus. Et on va fêter, bien sûr, la fête de Pâques dans quelques... pas ce dimanche, le 12, le 13. Le 10, le vendredi 10, si jamais vous êtes disponible, on va montrer ici le film sur la passion de Jésus-Christ. Le film de Mel Gibson. Et en fait, il n'y a pas de sous-titres en brésilien ou en portugais ou en français. C'est enregistré, le film est enregistré lui-même en araméen. Et on comprend bien ce qui se passe. Sans connaître l'araméen ou le français ou l'anglais. Donc, si c'est quelque chose qui vous dit, ce sera le vendredi soir à 7h, je crois, oui, à 7h. Et vous êtes bienvenus pour revoir se remettre dans le cœur. Mais là, ça se situe après la résurrection de Jésus-Christ. On va regarder ensemble un peu, on va parcourir les chapitres de ce livre en commentant et en voyant comment ça s'organise. D'abord, on pense que ça se situe entre l'an 30 à peu près, et donc après la résurrection de Jésus, et l'an 60 ou 62 de notre ère. En l'an 64, il y a eu l'empereur Néron a fait des martyrs. Paul, on pense qu'il est mort là. Et en l'an 70, il y a eu la destruction de Jérusalem par les armées romaines. Et donc, il n'est pas question de cet événement dont il serait absolument question s'il s'était déjà passé. Donc, on pense que c'est à peu près entre l'an 30 et l'an 60, 62, que se passent les événements décrits dans le livre des Actes. L'auteur, c'est Luc. On avait remarqué, en regardant l'évangile de Luc, que cet auteur, il était grec, on pense, et non pas juif. Il avait déjà parlé qu'il écrivait l'évangile de Luc à à un officiel, un personnage officiel qui s'appelait Théophile. Dans Luc 1, 3, il dit « Il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de t'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Luc était un docteur, un médecin, et il était très, très précis dans ce qu'il décrivait. L'évangile de Luc comporte beaucoup de détails historiques qu'on a pu vérifier, le nom des responsables politiques, le nom des gouverneurs, etc. Et c'est lui-même qui continue. Il dit au verset 1 du livre des Actes, « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. » C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Et puis, il continue, on va lire ces passages. « C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant, après avoir souffert, et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont leur dit-il, « Vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc réunis demandeurs, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent, « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel ou au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Et ils retournent à Jérusalem et là ils vont d'un commun accord, ils furent entrés verset 13, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus et avec ses frères. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et donc ça, c'est le Jésus s'en va. Il a envoyé son Esprit Saint. On va le voir. Jésus leur dit d'aller attendre l'Esprit Saint. Et il leur dit, verset 8, c'est un verset qui donne un peu le plan de tout le livre des Actes. Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Dans l'épître, dans l'évangile de Jean, l'évangéliste a rapporté les paroles de Jésus. Et dans Jean 14, 15, c'est page de 123 dans la Bible à la colombe. À la fin, il dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. » Jésus leur dit qu'il va envoyer un autre consolateur de la même nature que lui-même, et il l'appelle l'Esprit de vérité, c'est un autre nom, c'est l'Esprit Saint. Et là, on n'a pas le temps, mais on peut faire une étude pour voir qu'en fait, c'est Il s'agit de l'Esprit qui est la troisième personne de la Trinité. Il n'y a pas le mot Trinité dans la Bible, mais il y a un Dieu unique en trois personnes. Dès le début, lorsqu'il est dit que dans la Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, le mot Dieu, c'est le mot Dieu au pluriel en hébreu, Elohim. Et Jean nous dira dans 1 Jean, il nous dit que Dieu est amour. Et pour qu'il y ait amour, il faut qu'il y ait un échange d'amour. On ne peut pas être amour sans objet. Et on peut penser que depuis l'éternité, Dieu échange de l'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Là, Jésus nous dit qu'il va envoyer ce Saint-Esprit. Et il dit, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Et là, c'est très intéressant de s'attacher aux prépositions, c'est-à-dire les petits mots près de vous, en vous, sur vous, qu'on a vu dans Actes 1:8. Et ça montre en fait combien la nature des relations de l'Esprit Saint avec les hommes. Il demeure d'abord près de vous. Il est auprès de tous les hommes pour les convaincre de justice, de jugement et de péché. C'est l'Esprit Saint qui nous montre un jour si nous sommes ouverts, si c'est dans la volonté de Dieu, que nous sommes des pécheurs, que nous avons besoin d'être pardonnés par Dieu. C'est lui qui nous convainc de notre péché, qui montre qu'on fait des choses qui sont mal. Dieu nous a donné une conscience, mais souvent les hommes peuvent violer leur conscience, ne pas obéir à leur conscience. Il nous a donné aussi la beauté, l'immensité de la création pour nous montrer qu'il y a un Dieu. Quand on voit une nuit étoilée, quand on voit la beauté de la nature, on se dit que c'est pas un accident cosmique. L'image d'un accident, c'est pas la beauté. Et la beauté qu'on trouve dans la nature, l'apôtre Paul nous explique, c'est deux choses, notre conscience et le fait qu'il y a une création nous montre qu'il y a un créateur et qu'on a des comptes quelque part à lui rendre. Mais Paul dit aussi qu'en fait, si on ne comprend pas la beauté de l'évangile, c'est parce que l'ennemi nous a aveuglés. Et une fois qu'on est aveugle, on peut mettre la lumière en plein dans votre visage, vous n'allez pas la voir. Il va falloir qu'il y ait une opération chirurgicale, qu'il y ait un miracle, une opération qui va vous rendre la vue. Et de la même façon, il faut que l'Esprit Saint intervienne pour qu'on comprenne. Et d'abord, il est près de nous. Et si on commence à répondre à ce sentiment que oui, il y a quelque chose, il doit y avoir un Dieu, alors l'Esprit Saint va aller plus loin dans sa relation. Il va venir en nous. C'est la deuxième phase. Il va venir en nous, et on voit dans l'évangile de Jean que Jésus leur parle après sa résurrection, et il va venir en eux. Au chapitre 20 de Jean, verset 21, Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est page 130, ça, vers la fin. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Et une meilleure traduction de il souffla sur eux, ça serait il souffla en eux. Et ils reçoivent l'Esprit Saint. C'est la deuxième partie de il sera en vous. D'abord, il est près de vous, mais si vous l'acceptez, si vous acceptez Jésus, l'Esprit Saint vient en vous. Et là, on peut être sûr que quand Jésus dit que voilà, je souffle sur vous et je vous dis de recevoir l'Esprit Saint, l'Esprit Saint maintenant il est en eux. Et puis dans le livre des Actes, il y a cette troisième relation. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, qui va venir sur vous. C'est une autre préposition. Il y a d'abord la préposition, il est autour de vous, il vient en vous. Mais pour être capable d'être des bons témoins et d'être des témoins partout, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, il faut cette nouvelle relation qui est une puissance qui vient sur vous pour vous permettre de témoigner. Et ça, c'est ce que certains appellent le baptême du Saint-Esprit. D'autres appellent ça la plénitude du Saint-Esprit. D'autres disent que automatiquement, lorsqu'on reçoit ce baptême, on va parler en langue. Alors ça, c'est typiquement les mouvements de pentecôtistes qui disent ça, les mouvements charismatiques. On peut voir dans le livre des Actes, en fait, que c'est pas automatique. Et je suis persuadé qu'on peut... c'est un don. Donc tout le monde n'a pas à le recevoir. On peut prier pour ce don. C'est un don pour la prière, le parler en langue. Mais là, ils vont recevoir cette puissance, celle du Saint-Esprit qui va venir. On va voir plus loin le jour de la Pentecôte, des petites flammes, comme des flammes de feu qui vont venir sur eux. Et là, eux qui se cachaient parce qu'ils avaient peur d'être attrapés comme Jésus, d'un seul coup, ils vont aller mettre le monde dessus, sans dessus dessous. Ils vont aller révolutionner toute la planète avec le message de l'Évangile. Ils vont devenir des témoins puissants avec la puissance de l'Esprit-Saint plutôt. Ce n'est pas eux qui sont puissants, c'est l'Esprit-Saint qui est venu sur eux, qui va leur permettre de témoigner avec puissance. Et nous aussi, si on vient en Christ, je suis persuadé qu'on est sauvés. Le Saint-Esprit est en nous, mais on peut prier pour avoir cette relation de puissance pour témoigner où l'Esprit vient sur nous. Alors, ça peut se traduire, ça peut s'accompagner par un parler en langue, ça peut s'accompagner par un sentiment de joie, ça peut s'accompagner par des larmes. Mais il est bon de pouvoir se rappeler une première fois où on a prié pour ça. On peut prier, Paul nous dit dans Éphésiens 5, 18, je crois que c'est, d'être continuellement en train d'être rempli de l'Esprit-Saint. On a besoin de toute la force qu'on peut avoir pour témoigner, pour vivre la vie de chrétien. Et donc, sans faire quelque chose de bizarre, on peut prier pour avoir cette puissance que les disciples vont recevoir. Et là, on va voir qu'en fait, on peut organiser tout le livre des Actes par ces endroits où Jésus leur demande d'être ses témoins. D'abord à Jérusalem, donc la ville où il se trouvait, où Jésus a été crucifié, où il est ressuscité. Ensuite, la Judée et la Samarie. Et puis, enfin, ça sera jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, il ne parle pas du Brésil, ni de l'Amérique, ni de Seattle. Mais les extrémités de la terre connues à l'époque, c'était les voyages missionnaires de Paul. Et on va voir, il va faire trois voyages. Et puis, à la fin, il va se retrouver à Jérusalem. Il va aller à Césarée et puis on va l'expédier à Rome. Voilà, donc le grand jour, le début de l'Église en quelque sorte, c'est, on parle du remplacement de Judas qui avait trahi Jésus par un autre apôtre qui était Matthias. Alors certains disent qu'en fait les disciples se sont trompés parce que ils ont voté. Et ils ont pris Matthias, on n'en entend plus beaucoup parler dans le reste des actes. Alors, c'est pas grave si c'était une erreur ou pas, parce qu'il y a beaucoup des autres disciples dont on n'entend pas parler dans le livre des actes, à part Pierre et Paul, qui était un... On va voir son histoire. Mais Barthélemy, on n'en entend pas beaucoup parler. Jacques, le fils d'Alphée, le Simon, le Zélote, Jules, le fils de Jacques, on entend un peu parler de lui, mais... c'est pas une preuve. Peu importe, ils élisent Matthias et on va voir qu'il y a un autre personnage qui va arriver bientôt sur la scène et qui va devenir le plus grand apôtre de tous, ou au moins comparable à Pierre, l'apôtre Paul. La Pentecôte, c'était une des fêtes auxquelles tous les hommes juifs devaient participer. Ils devaient monter à Jérusalem. On dit monter à Jérusalem parce que Jérusalem est une ville d'altitude. Et c'est en altitude, je ne sais plus l'altitude exacte, mais c'est plusieurs centaines de mètres, je ne sais pas si c'est pas même... Et par rapport à la mer morte qui est dans une dépression, ça fait presque 900 mètres de différence. Donc c'est, on monte à Jérusalem. Il y a les cantiques que chantaient les Juifs de David, c'était les psaumes des montées, de la montée. Et il se trouve donc à la fête de la Pentecôte, c'était un autre nom, c'était la fête des semaines. C'était 50 jours après, 7 semaines après Pâques. Donc 7 fois 7, 49, c'était le lendemain, donc c'était 50 jours. Le mot 50, ça, en grec, ça donnait le mot Pentecôte. Panta, c'est 5 en grec. Donc Pentecôte, ça veut dire que c'est 50 jours après Pâques et après la résurrection. Et là, on va lire juste le début. Lorsque le jour, chapitre 2, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles s'opposèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors là, on voit qu'il y a l'Esprit Saint, il parle des langues, mais ce n'est pas nécessairement les langues angéliques qu'on ne comprend pas. Ce sont des langues qui vont leur permettre d'être reconnues par tous les gens. Verset 8, les gens qui les entourent, ils disent « je ne comprends pas, je croyais que c'était des Galiléens », et voilà qu'ils parlent parfaitement le brésilien, ils parlent parfaitement l'américain, ils parlent l'allemand, ils parlent... Et tous les gens qui venaient des villes qui étaient montées à Jérusalem pour cette grande fête religieuse, entendent parler des merveilles de Dieu. Et là, il y en a qui se disent « Oh, c'est parce qu'ils sont déjà saouls, ils sont saoulés, ils sont pleins de vin doux. » Et alors Pierre, qui prend la direction des événements, il élève la voix et il leur dit « Non, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. » Ça veut dire que c'est 9h du matin, ils n'étaient pas sous, même s'ils étaient sous, ils avaient été alcooliques, ils n'auraient pas été sous à 9h du matin. « Mais ce qui a été dit par le prophète Joël dans les derniers jours, dit Dieu, et il cite la prophétie de Joël, un des petits prophètes, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, etc. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et l'apôtre Pierre fait son premier sermon. Il y a 3000 personnes qui sont sauvées, qui veulent répondre à cet appel. Et il leur dit « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc les gens, il y a 3000 personnes et c'est le début de l'Église. Et ce qui est remarquable, c'est que cette Église, elle se poursuit aujourd'hui, près de 2000 ans plus tard. C'est quelque chose... L'Église, c'est pas une organisation. C'est pas quelque chose... Alors, pour les besoins de législatifs, de judiciaires, de financiers, les églises autonomes ou individuelles ont une structure administrative, mais l'église, c'est pas un bâtiment. L'église, ce sont les gens qui sont sauvés. Le mot église veut dire ceux qui sont appelés du dedans des autres. Donc c'est des gens qui sont appelés à la foi en Christ. Et ça, c'est l'Église. Et c'est pas... Bon, nous, on est Calvary Chapel, on est une église ici, dans ce bâtiment. Il y a l'Église baptiste, il y a l'Église pentecôtiste dans un autre lieu. Mais l'ensemble, au-delà des dénominations, des bâtiments, l'ensemble de tous les croyants, c'est l'Église. Et ça commence là, avec l'apôtre Pierre qui annonce la parole. Il annonce les prophètes, et là, les gens répondent. Et il est dit au verset 42, ce que faisait l'Église, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc, Ils étudiaient la parole, ils la lisaient, ils en parlaient, ils persévéraient. Donc ça demande du travail, un effort. Si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous faites quelque part un effort pour connaître davantage la parole. Dans la communion fraternelle, dans le fait de partager des bonnes choses, de partager de l'amour, des soucis, de s'entraider, ça c'est la communion fraternelle. Dans la fraction du pain, alors là certains pensent que c'est la Sainte Cène, de se rappeler de ce que Jésus a fait, et dans la prière, dans les prières. Donc ça en fait c'est pour nous, pour beaucoup d'églises, mais c'est très important de dire l'église, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit persévérer dans l'enseignement des apôtres, elle doit persévérer dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans se rappeler Christ, et dans les prières. Et si une église fait ça, elle est sur la bonne voie, parce que c'est le modèle biblique. C'est de... Les églises aujourd'hui essayent de faire des tas de choses, essayent d'attirer du monde en faisant des claquettes, en faisant des spectacles, en faisant des nouveautés, quelque chose toujours différent, il y a des modes, il y a des... Mais ça, si on s'en tient à ces quatre choses, alors on est dans le plan de Dieu et on reçoit la puissance du Saint-Esprit pour aller à côté et puis un peu plus loin et jusqu'aux extrémités de la terre. Une église qui ne grandit pas, c'est une église qui est malade. Une église qui n'évangélise pas, c'est une église malade. Une église qui ne prie pas, elle est destinée à mourir. Une église qui n'a pas la communion fraternelle, personne ne veut venir parce que c'est pas drôle. Une église qui ne persévère pas dans l'enseignement des apôtres, elle va prendre n'importe quelle direction, elle va étudier ça, elle va faire de la philosophie, de la psychologie, des statistiques, elle va s'éloigner de la parole de Dieu. Et verset 47, il louait Dieu, obtenait la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Voilà, donc si on n'a pas... Et aujourd'hui, il y a des méthodes pour faire la croissance de l'Église. Il y a des gens qui viennent avec des plans compliqués. En fait, si on est rempli de l'Esprit Saint et qu'on vit ces quatre choses qui sont le mode d'emploi de l'Église, quelque part, alors l'Église Dieu va ajouter à l'Église ceux qui doivent être sauvés. Alors, ensuite, on passe... Ça, c'était donc le fondement. Est-ce qu'il y a des questions peut-être sur cette période? Sinon on pourra y revenir. On appelle ce livre le livre des actes des apôtres. En fait c'est surtout les actes du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va agir à travers les disciples, à travers Pierre. Donc là, rassurez-vous, on va pas lire tout, sinon on y sera encore à 6h du matin. On va maintenant regarder un peu donc cette première section jusqu'au chapitre 8. Et ça, c'est... Ils sont d'abord témoins à Jérusalem. On pense que ça a duré 2 à 4 ans. Et les principaux... responsable de l'Église, ou les principaux instruments, c'est Pierre dont on vient de parler. Puis on va voir qu'il y a un dénommé Étienne qui va apparaître aussi. Pierre est capable de faire... Le Seigneur peut utiliser Pierre pour guérir des malades. Donc il y a une onction sur l'Église. Pierre est arrêté. Les chefs religieux veulent savoir par le nom de qui ils font des miracles, ils font des guérisons comme ça. Et l'église continue à grandir. Maintenant, il y a 5000 personnes au chapitre 4. Et Pierre, toujours rempli de l'Esprit Saint, verset 8, leur répond qu'en fait c'est par le nom de Jésus que cet homme se présente en bonne santé devant vous. Et Pierre continue de glorifier Jésus-Christ, son esprit. Il est Verset 12, le salut, il leur annonce qu'un verset très, très important, le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a que le salut par en Jésus qui marche, entre guillemets. Alors c'est souvent gênant pour, dans notre époque où on aime bien être tolérant, pour pas paraître comme guerrier ou antagoniste ou... Mais c'est la Bible qui est exclusive. Elle ne dit pas qu'on peut aller à Dieu par Mohamed ou qu'on peut y aller par Bouddha. Elle dit qu'il n'y a pas d'autre nom, seulement par Jésus. Alors soit on croit la parole et on accepte ça, soit on a un problème avec cette déclaration. Donc il faut revenir à la base de départ, à se dire est-ce que je crois vraiment à la Bible? Est-ce que c'est la vérité? Peut-être étudier les autres religions, mais pour moi... Le salut ne se trouve en aucun autre. Pourquoi aller chercher dans les fausses religions ce qui est déjà là? Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés car ils se rendaient compte que c'était des gens du peuple sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Ça, c'est encourageant. Des fois, on se dit, je peux pas témoigner parce que je n'ai pas fait des études théologiques, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas missionnaire, je ne parle pas le grec, l'hébreu ancien. Ou... En fait, Dieu utilise des gens comme vous et moi, il utilise des gens simples. Il utilise des gens du peuple sans instruction. Mais pour parler de Jésus, il faut faire ce qu'ils faisaient. Ils avaient été avec Jésus. Si on connaît Jésus parce qu'on vit avec lui, parce qu'on prie, parce qu'on lit la parole, on n'a pas besoin de faire des études poussées, etc. Ça va se voir sur nous. On va être transformé. Les gens vont dire, il y a quelque chose chez Yvonnette. C'est, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être c'est l'arrière-plan brésilien, mais pas nécessairement. Donc c'est cette idée d'être avec Jésus et ça se remarque au bout du compte. Il parle de, on voit la communauté des croyants au chapitre 4, verset 32. Il commence à, au début, il y avait une grande pauvreté. Ils étaient rejetés parce qu'ils ils venaient souvent, il y en avait qui venaient, qui étaient pas enracinés là. Il y en avait qui étaient venus pour la fête et qui étaient sans doute restés après. Il n'y avait pas de gens très riches. Et donc, au départ, il y a une vie un peu communautaire. Et là, il y a l'histoire de Ananias et Saphira. Ils font semblant d'avoir donné tout l'argent qu'ils ont récolté de la vente d'un terrain, alors qu'en fait, ils en gardent pour eux. Et le Saint-Esprit les reprend. Ils sont frappés de mort. Alors, on peut trouver que c'est très sévère pour des gens qui sont hypocrites. On se dit, des gens hypocrites, il y en a plein dans les églises, ce qui est vrai, il y en a plein ailleurs, il y en a plein partout, parce que ça fait partie de la nature humaine. Mais on peut penser que là, c'était le début de l'église, et le Seigneur voulait qu'il y ait un grand respect, une peur de sa parole, une peur de lui, une crainte respectueuse de Dieu. Ils vont devant Gamaliel, qui était le grand rabbin de l'époque, et lui leur dit, il dit aux autres chefs religieux, ne vous en faites pas, si ce mouvement est vraiment de Dieu, on va le voir, on veut pas détruire et s'y opposer et être contre Dieu, et si c'est pas de Dieu, au bout de quelques mois, quelques années, ça va mourir de soi-même. Donc, ils ont des problèmes parce qu'ils avaient beaucoup de monde, ils servaient des repas aux personnes démunies, et notamment aux veuves. La Bible dit de s'occuper des personnes sans ressources, les orphelins, les veuves. Et il y avait une dispute qui s'était passée parce qu'il y avait ce qu'on appelait les hellénistes, c'était des gens d'origine juive, mais qui parlaient le grec et qui connaissaient pas l'hébreu. Et il y avait un racisme qui s'était institué entre les hébreux qui parlaient l'hébreu, les vrais de vrais, ou l'araméen, qui était l'hébreu de l'époque, et puis les hellénistes qui ne parlaient pas bien la langue hébraïque. Et il y a une dispute entre les deux groupes. Et donc, les 12 disciples, les 12 apôtres font venir tous les disciples. On pense qu'ils étaient à peu près 120 au départ. On l'a vu dans la chambre haute. Et leur dit en tant qu'apôtre, leur tâche, c'est de se concentrer sur la parole de Dieu et la prière. Et que ce n'est pas leur affaire d'aller faire le service des tables, la cuisine. Et ça, c'est important aussi. Je crois que dans chaque communauté, il doit y avoir des personnes qui s'occupent de la parole de Dieu, de la prière, et d'autres qui font des tâches pratiques. Et souvent en France, le pasteur, il est appelé à faire tout. Le ménage, et ce qui empathie, c'est l'enseignement, c'est l'éducation spirituelle, parce que le pasteur n'a pas le temps de préparer ses messages. Et là, il décide de mettre 7 diacres, des serviteurs. Aujourd'hui, on appelle ça des gens qui aident dans l'église, ou des serviteurs, des volontaires. Et ils en élisent 7. Donc il y en a un qui s'appelle Étienne, qui est un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Et c'est lui qui va faire le service. Il opérait, au verset 8 du chapitre 6, il opérait des grands miracles parmi le peuple. Il y avait d'autres qui le critiquaient. Et puis, lui, il va faire un discours au chapitre 7. C'est un discours remarquable parce qu'en fait, c'est un résumé de l'Ancien Testament. Alors, l'Ancien Testament, c'est souvent un peu... Il y a 39 livres. Des fois, des livres très longs. C'est pas facile à lire rapidement. Et là, on a un très bon résumé de l'histoire du peuple de Dieu par Étienne. On va pas la regarder, mais sachez que c'est un très bon endroit lorsque vous voulez revoir un peu comment les choses s'articulent. Le chapitre 7 du livre des Actes. Il critique, il accuse les chefs religieux de s'opposer à l'Esprit Saint, d'être incirconcis de cœur et d'oreille. Ça, c'est à la fin du chapitre 7. Et du coup, ils vont le mettre à mort. Ils le mettent à mort en le lapidant, c'est-à-dire en lui jetant des pierres. Une méthode très, très cruelle. Beaucoup de souffrance, sans doute. Et là, au chapitre 7, à la fin, on peut regarder ensemble 54, à partir de 54, c'est page 141. En entendant cela, ils furent exaspérés dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils crièrent alors d'une voix forte en se bouchant les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le chassèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saül. Il lapidait Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché ». Et après avoir cela, il s'endormit, il mourut. Très premier martyr de l'Église qui meurt pour sa foi et qui pardonne ses meurtriers. C'est comme à l'image de Jésus qui disait « Ne le pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et là, on vient de parler de Saül qui va devenir l'apôtre Paul. Saül, c'était quelqu'un qui persécutait l'église naissante. Il ravageait l'église, il la détruisait, il pénétrait dans les maisons, verset 3, en arrachant hommes et femmes et en les faisant jeter en prison. Et sa force, cette persécution en fait va disperser les chrétiens, ça va être une source d'évangélisation. Ce don qui avait été dispersé allait de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ça, c'est un peu ironique. C'est comme si l'ennemi, Satan, le diable, veut empêcher le christianisme de se répandre. Donc il attaque, il fait mettre à mort ce diacre qui était capable de faire par la prière, de faire des miracles, de faire des choses, qui avait beaucoup d'influence. Il le met à mort. Il y a Saül, le futur Paul, qui persécute l'église, donc les gens sont obligés de partir, et ainsi de suite, ça disperse l'église, et ça fait qu'elle va s'étendre, elle va se multiplier. On va voir au chapitre 9, là il est question au chapitre 8 de l'église, donc en Samarie, parce que Philippe, c'est un diacre qui va aller parler à un eunuque éthiopien, un haut fonctionnaire qui vient d'Éthiopie, est en train de lire le prophète Ésaïe, mais il ne comprend rien. Ça, c'est entre les chapitres 26 et 40. Et il y a un ange qui vient parler à Philippe et qui lui dit d'aller sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Et c'est là qu'il va trouver ce haut fonctionnaire éthiopien. Et il lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il lui dit, comment pourrais-je si j'ai personne qui m'aide? Et il lit le passage de Ésaïe 53. Il a été mené comme une brebis à l'abattoir et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé et sa génération qui la racontera, car sa vie est supprimée de la terre. Et ce passage parle du Messie souffrant, humilié, Jésus lui-même. Et l'eunuque va écouter les explications et demander à se faire baptiser. Il va venir à la foi. Ça fait qu'en Éthiopie, en fait, il y a une très vieille foi, une foi chrétienne, une église qui est une des plus anciennes au monde. Après, probablement, cette conversion de l'eunuque éthiopien. Le chapitre 9 nous parle de la conversion de Paul, de Saül. Lui, vous souvenez, il voulait mettre à mort les chrétiens, ceux qui suivaient la voie avec un grand V. C'est comme ça qu'il parlait parce que c'était le chemin, la vérité, la vie, la voie de Jésus. Il les emprisonnait, il voulait les faire périr. Et là, il était en chemin pour aller à Damas, aujourd'hui en Syrie. Et là, sur le chemin de Damas, Dieu l'interpelle. C'est Jésus même qui l'interpelle. Parce qu'il lui dit, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il tombe par terre et il entend une voix qui lui dit, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Ça, c'est le chapitre 9, verset 4. Verset 5, il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui répond, « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. » Et il va révéler à Paul qu'en fait, Paul l'a déjà appelé Seigneur. Il a réalisé qu'il y avait une puissance divine là. Il rencontre Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que Saül persécutait l'Église, les chrétiens. Et Jésus lui dit, tu me persécutes. Pourquoi ? À votre avis.
En persécutant les chrétiens, il les empêchait de parler de Jésus, c'est d'annoncer la parole.
Et même en reprenant les images que Paul utilise dans d'autres passages, l'Église, on dit que c'est le corps du Christ. Jésus est la tête de l'Église, c'est la tête du corps. Et l'Église au sens large, c'est son corps. Il n'est plus là, mais par l'Esprit Saint, ce corps peut aller où il y a besoin, il peut faire du bien où il y a besoin, il peut le consoler, il peut faire beaucoup de ce que Jésus aurait fait. Il est donc, sachez que lorsqu'on vous persécute pour votre foi, en fait, c'est Jésus-Christ qui est persécuté. Et vous pouvez être sûr qu'il va pas, il va peut-être avoir un peu de patience, mais à la fin, il va réagir. Des fois, il laisse les gens mourir, et ça, c'est un mystère. Mais vous êtes du côté de celui qui va gagner, si vous connaissez Jésus. Donc, le chapitre 9 explique que Jésus, par un dénommé Ananias, un autre disciple, qui a une vision, qui doit aller parler à Saül, Jésus lui dit dans la vision, va car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin, verset 15, afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Et donc, ce dénommé Ananias va aller trouver Saül tout tremblant parce qu'il sait que c'est un persécuteur, mais il a entendu le Seigneur lui dire qu'en fait, il est un instrument choisi par Dieu pour aller porter le nom devant les nations. Les nations, c'était les non-juifs. Il y avait, à l'époque, il y avait les juifs, et puis les autres, c'était les goïms, c'était ceux qui n'étaient pas juifs, c'était les ethnos en grec, les races, les autres races, ou les autres groupes humains. Et c'est Paul qui va aller annoncer l'évangile aux non-juifs. Donc, il va passer du temps, d'abord pendant 3 ans, on explique qu'il va passer du temps en Arabie, qu'il va, ça c'est dans Galates quand on voit ça. Et donc, entre les récits précis du livre des Actes, des évangiles et les lettres, on arrive à avoir une très bonne idée. Il y a des fois des petits points d'ombre ou de discussion pour savoir s'il était à tel endroit ou à un autre. Mais ça se recoupe. Et ça, c'est encore une fois, c'est un récit historique. C'est pas une fable, c'est pas une légende, c'est pas des mythes. C'est pas une jolie histoire, c'est de l'histoire. Et c'est l'histoire de Jésus et de l'œuvre qu'il avait commencée, qu'il continue maintenant par l'Esprit Saint et par le corps, son corps qui est l'Église. Et ça s'arrête pas encore. Pierre était juif, il reçoit une vision. Au chapitre 10, où Dieu lui dit d'aller parler à des païens. Et pour Pierre, qui était un juif respectueux des traditions juives et de la loi, d'abord aller parler à des païens, c'était mal, mais il a une vision, il voit un dans le ciel, c'est au chapitre 10, verset 11, page 145, il voit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Il s'est trouvé tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre répondit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Si quelqu'un est votre Seigneur, vous ne lui dites pas « Non, Seigneur ». Mais Pierre, ce n'est pas la première fois qu'il fera des contradictions. La foi se fait répéter. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut enlevé dans le ciel. Et il a cette vision qui lui dit en fait que les lois traditionnels juifs de l'Ancien Testament concernant la nourriture, les animaux purs et les animaux impurs, c'est en quelque sorte dépassé. Maintenant, ce que Dieu déclare pur, ça n'est pas impur. Donc si Jésus dit à Pierre de manger ces aliments, il ne doit pas avoir le sentiment qu'il viole la loi. Jésus est plus fort que la loi, bien sûr. Il l'a accompli. Mais ça montre une transition. Il y a des règles comme ça qui étaient des règles alimentaires de bon sens. Quand ils traversaient, il n'y avait pas de réfrigération, manger du porc qu'on aurait gardé pendant le voyage, pendant le désert, ça aurait été se condamner à mourir avec des empoisonnements de nourriture, etc. Mais on est dans l'époque de la grâce. La loi a été accomplie par Jésus et Jésus nous dit qu'on peut faire beaucoup de choses qui étaient interdites du moment qu'on les fait pour lui et avec un cœur qui lui est consacré. Il va y avoir la conversion d'un païen, le centenier, c'est-à-dire un centurion, Corneille, qui était un homme juste qui craignait Dieu. Et ça, c'est donc un grand pas pour Pierre. Il explique aux autres juifs qu'au verset 28, vous savez qu'il était interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. Ensuite, il va à Jaffa, c'est un petit. On peut voir une maison, la maison du cordonnier Simon, quand on va près de Tel Aviv, sur la côte d'Israël. Il continue à prêcher. Là, il y a le Saint-Esprit qui va venir sur des païens, au verset 44 du chapitre 10. Et verset 45, « Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils entendaient parler en langue et exalter Dieu. Alors Pierre reprit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Là, les païens sont aussi, reçoivent cette puissance du Saint-Esprit. Là encore, on voit qu'ils sont touchés, ils peuvent parler en langue et exalter Dieu. Il y aura d'autres passages, on ne va pas faire une étude tout au long du livre, où ils reçoivent l'Esprit de Dieu sur eux, comme ça, sans autant parler nécessairement en langue. Pierre doit s'expliquer, donc au chapitre 11, on voit maintenant il y a un changement. Pierre va céder la place à Paul, Jérusalem va céder le centre de la foi à Antioche, une ville en Asie mineure. Il y a beaucoup de conversions, verset 21 du chapitre 11. La main du Seigneur était avec eux, des gens qui annonçaient la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de conversions. Le bruit en arrive à l'église de Jérusalem qui envoie deux personnes, Barnabas et Paul. Barnabas d'abord, qui va chercher Paul. Et ils vont à Antioche, travaille à Antioche pendant des mois, pendant un an. Et là, c'est verset 26, c'est la première fois qu'on les a appelés, les disciples sont appelés des chrétiens. Des chrétiens, ça veut dire des petits Christ. Ça, c'est un beau nom. J'aimerais bien qu'on dise de moi, je suis un petit Christ. On dit déjà que je ne suis pas un ange, mais... Ce serait merveilleux. Donc c'était les autres en fait qui les appelaient des petits Christ. Ils le faisaient comme une pour se moquer d'eux, mais en fait l'Église grandissait. Il y avait beaucoup de bonnes choses. Et puis Pierre se fait arrêter. Il est mis en prison. Il est libéré miraculeusement. Les gens sont en train de prier pour sa libération. Il vient frapper à la porte et les gens ont peur de lui parce qu'ils ne croient pas que Dieu peut... Ils prient sans croire que Dieu peut exaucer leur prière. Ils disent, oh Seigneur, libère notre cher Pierre. Pierre est libéré, on n'a pas le temps de tout regarder. Et quand il vient frapper à la porte, il dit, c'est un fantôme, c'est pas possible. Et ça, c'est un peu nous des fois. On prie pour des choses et quand ça arrive, on dit c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et on arrive maintenant au premier voyage missionnaire de Paul. Paul va faire 3 grands voyages entre les chapitres 13 et 21. Les chapitres 13 et 14, c'est son premier voyage. Alors, si vous regardez à la fin de la Bible, il y a toujours une carte des voyages de Paul, en principe, sur votre Bible. S'il n'y en a pas, est-ce qu'on en a d'autres avec une carte ? Est-ce qu'on a une Bible ? Une carte ? On avait un petit... Tu sais où sont les cartons, là ?
Les cartons.
Je ne sais pas si on en a, mais ce serait bien. Waouh, super. Alors, c'est toujours un peu compliqué quand on lit la première fois le livre des Actes. On ne sait pas trop comment... Et après, on ne sait plus à quelle partie, à quel moment. Mais vous pouvez, je vous laisse regarder là. Le premier voyage, ils partent d'Antioche, ils vont à l'île de Chypre, et puis, vous voyez, vous suivez peut-être pas bien, si ? D'Antioche, ça c'est le premier voyage, 13-4 à 14-27, ils débarquent en Asie mineure, en la Turquie actuelle, dans la côte sud de la Turquie actuelle. Et puis, ils font un petit voyage et ils reviennent et ils reprennent le bateau pour Antioche. Ça, qu'est-ce qui se passe dans ces... Livre des Actes 13. Il y a des... Ils annoncent l'évangile dans ces endroits et les gens répondent. Et les... Il y a un passage qui est cité qui vient de Ésaïe 49. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. La lumière des nations, c'est le nom de l'association de Paul, d'ailleurs, à l'Ariane. Lumière des nations. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Et donc les païens se réjouissent, mais il y a des juifs qui ne comprennent pas que des païens viennent à Dieu comme eux. Ils avaient toujours le sentiment qu'ils étaient privilégiés, qu'il y avait une relation spéciale. Alors c'est vrai que Dieu a choisi le peuple juif pour venir sur terre, pour s'incarner dans la race humaine. Mais ce n'est pas parce qu'ils avaient des qualités, c'est simplement par sa grâce. Il fallait qu'ils choisissent quelqu'un, il les a choisis. Il a créé cette race par Abraham et elle s'est établie. Mais ça gênait les juifs, et même les juifs qui étaient convertis. Ils vont à... À Iconium, ça c'est au milieu du passage là. Ensuite à Lystre, y a des gens qui veulent les adorer, ils se disent mais non, les apôtres font des... Ils guérissent un infirme de naissance à Lystre et les gens sont persuadés que ce sont des dieux. Ils veulent les vénérer, les adorer. Et verset 15, « Pourquoi faites-vous cela ?» Paul et Barnabas répliquent, « Nous ne sommes que des hommes de même nature que vous. Nous annonçons comme une bonne nouvelle qu'il faut vous détourner de ces vanités et vous convertir au Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Et ils retournent à Antioche. Et là, Certains disent, il y a des, à Antioche, il y a des gens qui viennent de Jérusalem, de Judée, qui leur disent en fait, c'est très bien d'avoir reçu l'Esprit Saint, d'avoir la foi, d'être sauvé comme ça, mais en fait, vous ne pouvez pas vraiment être sauvé si vous n'obéissez pas à la loi de la circoncision, si vous ne faites pas circoncire. Et ça provoque un grand débat. Et ils décident d'aller voir les apôtres qui étaient encore à Jérusalem, qui étaient plus anciens. À l'époque, il y avait Jacques, qui était l'apôtre qui semblait être un peu le responsable à Jérusalem. Et il y a ce qu'on appelle la conférence de Jérusalem. Ça, c'est un tournant de l'histoire de l'Église. Parce que par l'Esprit de Dieu, les responsables décrivent qu'en fait, on ne va pas imposer aux païens qui se convertissent par la foi à se faire circoncire, même si ces choses peuvent... Ils leur disent souvent, vous voulez faire des choses aux gens que vous n'êtes pas même pas capable de faire vous-même. Et Jacques leur dit, en fait, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de nous imposer que, à l'époque, il leur demandait de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, parce que ça posait un problème de conscience pour certains, du sang des animaux étouffés et de l'inconduite, mais ils disent pas qu'il faut absolument qu'ils se fassent circoncire. Donc il y a une ouverture des responsables vers les païens. On va pas essayer de faire des chrétiens, des juifs à l'ancienne. La foi chrétienne, quelque part, elle a ses racines dans la foi juive, mais c'est pas le retour à la loi. Et Paul va s'énerver tout au long de ses lettres pour les gens qui essayaient de remettre la loi à la place de la foi. Et ce qui compte, c'est la foi en Jésus, c'est pas la loi. La loi, on est sauvé par la foi. Et il nous dira au moins par la grâce, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, parce que sinon, ce ne sont pas les œuvres. Parce que sinon, on se vanterait de ce qu'on est fort dans. On va prier, on jeûne, on lit 20 chapitres de la Bible. Et c'est par la grâce, c'est l'amour non mérité de Dieu. Et Paul, il a compris ce message et il va le prêcher. Mais c'était très important qu'il y ait cette décision prise à la conférence de Jérusalem, chapitre 15, qui dit qu'en fait, on ne va pas imposer un retour à la loi juive. Ensuite, il y a le deuxième voyage missionnaire de Paul et Barnabas. Et très rapidement, Barnabas va se séparer de Paul. Parce qu'en fait, Barnabas avait un cousin, ça on le sait dans Colossiens, qui s'appelait Marc, qui l'avait fait venir avec eux. Et puis, ce jeune homme, en plein travail mission, il décide de rentrer à la maison. C'est trop dur pour lui, ça lui plaît plus. Et du coup, Paul est très... Ça s'était passé avant, et donc Paul ne veut pas reprendre Marc, et du coup les deux se divisent. Barnabas va partir avec Marc, Paul va aller avec un dénommé Silas, et ils vont en fait multiplier. C'est une dispute, c'est pas bien de se disputer, mais Dieu peut utiliser même nos disputes pour multiplier le travail. Et ils vont partir, ça c'est le deuxième voyage, alors là sur la carte on voit qu'ils vont un peu plus loin cette fois-ci. Ils vont aller par voie de terre, ils vont repasser par les endroits où il avait déjà été. Ça, c'est une constante. Il va aller jusque à l'embouchure de la mer Noire, des Dardanelles, à Troas. Et là, il va entendre, il va avoir une voix qui va l'appeler pendant la nuit. Il ne sait pas trop où aller, mais le Seigneur le dirige. Ça, c'est au début du chapitre 16. Et il y a quelqu'un, il voit un Macédonien dans une vision, quelqu'un qui habitait en Grèce, en Macédoine, qui l'appelle et qui lui dit « Viens à notre secours. » Et donc, ils prennent le bateau, ils obéissent à cette vision, qu'ils pensent être vraiment quelque chose que Dieu veut leur dire. Et là, c'est intéressant, on ne le remarque pas si on ne fait pas attention. Vous vous rappelez qui écrit ce texte? Comment il s'appelle? C'est Luc. Et jusqu'à présent, il parlait de ce qu'il faisait, il faisait ça, il y avait un tel. Et là, il y a un tournant au chapitre 16, verset 10. Après cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine. Du coup, Luc s'est mis aussi avec Paul. Il est parti dans ce deuxième voyage missionnaire et il est parti en mission avec Paul. Là, on peut remercier le Seigneur parce que c'est comme ça qu'ils sont arrivés en Europe. Et ils vont descendre jusqu'en Grèce, ils vont passer à Athènes, ils vont passer du temps à Corinthe, à Éphèse, et puis là ils vont retourner à Antioche. Le troisième voyage missionnaire, c'est à partir du chapitre 18, verset 23, jusqu'au chapitre 21, chapitre 14, verset 14. Là, ils vont... Paul va aller à Éphèse. Donc ça, sur votre carte, il doit y avoir un autre symbole qui montre le trajet. Donc il part d'Antioche, Éphèse. Il passe à Troas. Ils sont revenus. Là, on est au troisième voyage, hein, j'ai dit. Donc là, troisième pour moi c'est en rouge, ils partent d'Antioche, ils vont à Éphèse, là ils passent en Grèce, ils remontent à Thessalonique, ils descendent à Corinthe, et puis ils reviennent par Philippe, repassent par le sud de l'Asie mineure, et en bateau ils rejoignent Tyr, qui est le port à l'époque de la côte d'Israël. Et là, tous ces noms qu'on voit, on voit qu'ils enseignent à Éphèse, il va en Macédoine, il va à Troas, il passe à Milet. Il y a un épisode intéressant à Troas, c'était cette petite ville sur la côte d'Asie mineure en Turquie. Paul enseigne, il enseigne si longtemps qu'il y a quelqu'un qui s'endort et qui tombe et se tue. Il faut que Paul le ramène à la vie. Donc je vais vous rassurer, vous n'allez pas tomber mort, on va bientôt terminer. Paul, en fait, son ministère, c'était... Partout où il allait, soit il y avait des conversions, soit il y avait la révolution. Parce qu'il annonçait il allait d'abord dans les synagogues où il y avait des juifs qu'il connaissait, mais tout de suite il allait dans les rues parler aux païens, et ça provoquait toujours soit des réponses où les gens disaient oui, c'est vrai, on veut ce que tu nous offres, on veut la foi en Jésus, qu'est-ce qu'on doit faire pour être baptisé? Ou alors les gens étaient en colère contre lui et il y avait des émeutes qui se passaient. Il revient donc à Jérusalem. Il se fait arrêter. Il s'adresse au peuple. Ça, c'est le chapitre 22. Là, on va voir qu'il va être... Il va avoir des difficultés. À un moment, il va dire qu'il est romain. Et il avait la nationalité romaine. De par sa naissance, et ça lui donnait certains droits que les autorités religieuses avaient bafoués, ou même politiques. Et finalement, il va comparaître devant on pourrait un peu l'appeler la Cour suprême religieuse en Israël, c'était ce qu'on appelait le Sanhédrin. Et de là, il va faire appel. de son emprisonnement, de ses condamnations, et il va monter, il va avoir affaire à des hauts responsables. Il va aller à Césarée, c'est là qu'il y avait la résidence du gouverneur Félix, qui va presque, puis il va parler devant Festus au chapitre 25, il va finalement parler devant le roi Agrippa, qui était le roi mis en place par Rome pour régner sur la Palestine de l'époque. Il va avoir l'opportunité de parler de sa foi devant le roi même, qui va lui dire « Encore un peu, tu vas me persuader de devenir chrétien. » L'Esprit Saint avait été promis, Jésus leur avait dit « Ne vous souciez pas de ce que vous direz quand on vous jugera devant les tribunaux. » Dans Acte 9, Jésus avait fait la promesse qu'il allait parler, porter mon nom devant les nations et les rois. On a vu comment il parlait aux païens, les nations. Et là, dans ce dernier chapitre, on voit comment il parle au roi. Finalement, il va faire appel de sa condamnation. Il va dire qu'il va être jugé devant César lui-même. Donc il va partir à Rome. Et là, ça va être l'occasion d'un quatrième voyage. Pas vraiment un voyage missionnaire parce qu'il est emprisonné. Et là, c'est là qu'il va faire naufrage. Il va passer par Chypre. Ils vont longer Chypre. Et puis, pendant l'hiver, ils vont s'arrêter en Crète. Là, il va faire naufrage à Malte. Il va y avoir un miracle encore. Et puis, finalement, il va se retrouver arrivé à Rome. À l'époque, il n'y avait pas EasyJet, il n'y avait pas les bateaux à très grande vitesse. C'était un grand sacrifice de faire des voyages, mais Paul va aller jusqu'à Rome. Et là, il est assigné en résidence. Et le livre des Actes se termine. Paul est encore emprisonné. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute assurance et sans empêchement. Et on voit dans beaucoup des épîtres, des lettres qu'il écrivait à différentes périodes de ses voyages, qu'à la fin, il était capable d'écrire et de convertir les gardes qui le gardaient. Et ces gardes vont répandre la foi chrétienne au point que dans les épîtres, on voit qu'il y avait des gens de haut rang, même des gens du gouvernement de César, de l'empereur romain, qui s'étaient convertis. Paul avait été vraiment utilisé comme un instrument pour parler aux païens, et parler aussi aux juifs, et au roi jusqu'à César. On pense, la tradition le dit, c'est pas dans la Bible, mais qu'il a été exécuté sous l'empereur Néron, et qu'il a été, on lui aurait tranché la tête à la hache. Mais ce qui est remarquable, c'est de voir comment l'œuvre qu'il a commencée continue. Comment on lit, c'est... Ah, mettre un peu le chauffage. Tournez le bouton. Voilà, on va s'arrêter là, il est tard. Si vous avez quelques questions, comment les choses s'enchaînent, je vous invite, si vous ne l'avez jamais fait, à lire tout le livre. Mais savoir, il y a d'abord Jérusalem, ensuite la Judée, et puis après ces grands voyages missionnaires de Paul. Puis à la fin, c'est Paul qui va se faire juger. Et il n'y a pas vraiment de fin. Continue à prêcher le royaume de Dieu, et on peut dire qu'en fait les gens qui ont suivi, ceux qui ont été touchés, et c'était une réaction en chaîne. Et je crois que le verset du départ, qui est le verset clé de ce chapitre, une fois qu'ils ont, vous allez recevoir une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. quelque part, c'est aussi un modèle pour l'extension de l'Église. Et même au niveau local, une Église locale peut avoir cette ambition de, d'être les témoins, avec cette puissance du Saint-Esprit, d'être des témoins dans le quartier, des témoins dans, dans la région. Hein. Jérusalem, pour nous, c'est Nice. La Judée, c'est les Alpes-Maritimes. C'est les villes avoisinantes. Après, c'est la Samarie, c'est peut-être la France ou PACA. C'est trop de vent ? Ah, c'est trop. On a fini. Et après, chaque église doit avoir ce désir d'envoyer des missionnaires jusqu'aux extrémités de la terre. C'est où le bout du monde ? Ça peut... Quand j'étais petit, je me disais, mais le bout du monde, j'y suis, parce que si je fais le tour, je reviens ici. Mais je crois que c'est, vous pensez à un endroit lointain, il n'y a pas d'endroit assez lointain pour, où l'amour de Dieu ne veut pas envoyer, ne veut pas envoyer quelqu'un, et ça peut être vous. Est-ce que vous avez des... Vas-y.
Comment est-ce qu'il voyage ?
Ah, alors, il y avait, on verra, là, il y avait des bateaux, il y avait des chevaux, il y avait des charrettes, il y avait des chariots, et souvent à pied. Ils parcouraient... c'est intéressant, maintenant, il y a des... Vous avez entendu qu'on peut faire des voyages organisés par des, pour aller voir les lieux saints en Israël, on appelle ça comme ça. Mais on peut, par exemple, aussi faire des voyages sur les traces de Paul. Alors, eux, ils avaient le temps, ça prenait des mois, des années. Maintenant, on peut aller en Asie mineure, suivre les traces de l'apôtre Paul. Je ne l'ai jamais fait, ça serait quelque chose de très, très enrichissant. Et c'est vrai que tous ces lieux qu'on lit comme ça, même si on a une carte, ça reste un peu abstrait. Mais si on a le privilège, la chance de pouvoir aller en Israël, on comprend mieux que, oui, il y avait Jaffa, c'est toujours là. Ça existe encore, on peut voir la ville, on peut réaliser que pour aller à Jérusalem, ça va prendre à pied, ça va prendre quelques heures. On a le meilleur sentiment. Mais ce qui est formidable, c'est de voir que c'est ancré dans l'histoire, dans la géographie. C'est pas des histoires. On peut. Et Luc, c'était quelqu'un de très précis. Il était précis dans toutes ses descriptions géographiques, historiques. Il faisait des études, il recherchait. Et donc, le fait que, et je l'ai déjà partagé, le fait qu'on peut vérifier la géographie, l'histoire de l'époque, ça nous encourage à vraiment lui faire confiance lorsqu'il parle de choses spirituelles. Si c'était quelqu'un qui racontait des salades, il ne se prendrait pas autant de peine à décrire les lieux, les endroits, les personnages historiques. Et c'est un cadeau de Dieu que d'avoir toute la parole, mais en particulier ce livre des Actes. Et le livre des Actes, ça dynamise une église, l'étude du livre des Actes. Je me souviens, lorsqu'on a étudié le livre des Actes, on avait commencé ici il y a quelques années, on a vu vraiment une croissance, parce que chacun réalise qu'en fait on peut parler à tout le monde, on n'a pas besoin d'être le pasteur pour aller faire du bien, de parler de sa foi aux gens qui nous entourent, et ça fait une réaction en boule de neige. C'est un peu comme une réaction en chaîne. On a découvert le principe de l'explosion atomique, qui est une réaction en chaîne des atomes qui explosent, qui libèrent des particules qui vont briser d'autres atomes. L'Église, c'est ça. C'est une explosion au départ, quelque part, ça s'est passé avec ces gens-là. Et depuis, c'est l'Évangile qui fait exploser votre cœur et vous avez envie maintenant d'aller partager la bonne nouvelle avec les autres qui vous entourent. Et c'est le plan de Dieu, et c'est quelque chose qui marche. Il y a de l'opposition, on a l'impression des fois, mais sachez que chaque jour, il y a des milliers de personnes qui viennent à la foi en Christ. Amen.
Il y a un petit passage.
Oui.
Dans Jean 20, verset 22, 23, un petit peu difficile à comprendre. Je veux savoir comment on peut expliquer, surtout le verset 23 de Jean 20.
Ah oui, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés, ceux à qui vous les retiendrez ils leur seront retenus. Alors ça semble donner une grande puissance un peu aux apôtres. Ils peuvent décider, ils sont un peu les chefs, ils peuvent dire bon ben. Ce qui est sous-entendu, c'est que vous allez leur annoncer la bonne parole, la bonne nouvelle. Et par là, vous allez, en quelque sorte, s'ils viennent à Christ, leurs péchés seront pardonnés. Donc on pourrait presque dire que c'est vous qui les pardonnez, mais s'ils refusent, leurs péchés vont être... Donc c'est pas, ça décrit pas une puissance discrétionnaire, c'est moi qui suis le chef, je déclare, bon ben, je te pardonne pas. Mais c'est, est-ce que vous acceptez Jésus ? Si vous acceptez Jésus, vos péchés vous sont pardonnés, c'est comme si je vous ai pardonné vos péchés. Si vous refusez Jésus, vos péchés ne sont pas pardonnés. Et c'est une très bonne question, et c'est vrai que ça peut donner l'influence à l'Église catholique de dire, bon, ben, c'est eux qui détiennent, c'est le pape qui détient la puissance du pardon, et on sait qu'il n'y a d'autres noms, aucun autre nom donné parmi les hommes, acte 4, 12, pour être sauvé, c'est pas les hommes qui sauvent, c'est l'Évangile. Et on est, une fois qu'on l'a reçu, on est détenteur de ce message. Et ce message, il faut aller le porter à quelqu'un d'autre. Et de la même façon, ceux qui refusent de vous entendre, leurs péchés ne seront pas pardonnés. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ça, c'est dans 1 Jean que c'est expliqué.